Éminence, Monseigneur, nous voici donc rendus à la face A de la deuxième cassette, et rebonjour et bonne écoute. Nous en étions à la deuxième partie de l'enseignement, chapitre 4, suite de la deuxième et dernière dizaine de caractéristiques. Et nous passons immédiatement à la douzième. L'évêque plus ou moins marial. Si étonnant, pour ne pas dire inquiétant que ce soit, il nous faut bien constater qu'il y a un type d'évêque, tout autant que de prêtre, de religieux, de religieuse, qui, après tant d'années pourtant de vie consacrée au Seigneur et de service vraiment louable en Église, n'a pas encore réussi à établir et à vivre une relation intime d'amour, de confiance et de tendresse, même avec la Vierge Marie, pourtant Mère de Dieu et Mère de l'Église. C'est incroyable, mais plus fréquent qu'on le pense. Il s'ensuit d'inévitables et lourdes conséquences, non seulement pour eux, mais pour le niveau spirituel, pastoral, apostolique, des âmes de leur diocèse. Non seulement ces types d'évêques deviennent inaptes à capter et retransmettre par goût et avec enthousiasme les richesses de la vie mariale, mais ils sont incapables de percevoir, de goûter, de décoder, d'apprécier les messages lumineux, puissants, interpellants de Marie pour le salut du monde. Donc incapable de discerner rapidement et correctement l'authenticité de ces apparitions et manifestations sans nombre à travers le monde et l'Église. Pensons seulement à Médiégorier. Quelle honte que ce silence de l'Église. Le Père a eu recours, on le sait bien, à l'Esprit-Saint et à Marie pour la première venue de Jésus. Il a été conçu de l'Esprit-Saint, aîné de la Vierge Marie. En cette mission invisible et discrète en cours, sa mission de Père, j'en parle au chapitre 7 des cassettes sur le Big Bang spirituel, le Père confie encore le nouveau retour de Jésus à l'action conjointe des deux, l'Esprit-Saint précurseur et sa très sainte Mère Marie. Les deux, on le voit de toute évidence, surabondent présentement dans leurs efforts pour y préparer les cœurs et les esprits. Le type d'évêque non marial ou seulement plus ou moins marial est lui aussi dépassé, déphasé spirituellement. Treizième caractéristique, l'évêque qui est devenu suffisant parce qu'insuffisant. On le sait tous, plusieurs d'entre vous le savent encore davantage, bien des évêques ont été, permettez-moi l'expression, en quelque sorte parachutés du jour au lendemain dans leurs fonctions, sans préparation et sans entraînement. Pour plusieurs, ce Tchernobyl ou tremblement de vie a encore, même après des années, ses secousses sismiques et périodiques perceptibles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'eux-mêmes. Jusque-là, c'est normal. Là où ça se gâte, c'est quand, un peu pour compenser, souvent même par simple mécanisme de défense, le tout finit par susciter l'une des deux réactions excessives suivantes. Soit un complexe inavoué de supériorité, car cette nomination veut pas inconsciemment leur a monté à la tête, soit un complexe inavoué d'infériorité, car ce choc surprise, en fait, à cause de leur non-préparation, leur a tombé dans l'estomac ou dans les pieds. Dans le premier comme dans le deuxième cas, ce sont souvent alors la litanie des réflexes du dominant, de l'omniprésent, de l'omniscient qui surgissent ou spontanément, si c'est un complexe de supériorité, ou par compensation si c'est un complexe d'infériorité. Mais pour les entourages et les fidèles, cela devient la même preuve ou épreuve. Donc un évêque animé d'esprit de pouvoir, de contrôle, ayant toujours ou souvent peur de perdre son autorité et alors voulant tout savoir, tout vérifier, tout contrôler par lui-même, tout en se disant démocrate, homme d'équipe, plein d'entre-gens. Évêque aussi qui aime s'entourer surtout de gens à son image et ressemblance, d'un personnel que je décris parfois en boutade, du style miroir et tuile acoustique, qui redonne habituellement au prélat surtout sa propre image et l'écho de ses propres idées. Donc un entourage qui n'est pas à l'image et à la ressemblance du Seigneur et de ses fidèles, mais au sien, à lui l'évêque. 14e caractéristique, l'évêque qui malgré lui engendre les orphelins spirituels. Depuis Vatican II, il y a eu un désir fort louable en Église d'être de plus en plus présent au monde, et plus particulièrement aux plus démunis et aux handicapés parmi nos frères et sœurs. Bravo! Rien à redire quant à cet élan nouveau, cet engouement pastoral nouveau. Mais, oui mais, dans le plan de Dieu, si on avait vraiment pris le temps de le comprendre et de l'associer à nous de façon assidue, tout cet engouement, tout cela n'aurait pas dû normalement nous amener d'une part à négliger pour autant l'aspect moral et spirituel de tous ces démunis et handicapés physiques et matériels, et d'autre part non plus nous amener dans notre emballement pour le monde et ses besoins à négliger sérieusement, comme c'est souvent le cas, cette multitude de démunis spirituels, d'orphelins spirituels, d'handicapés spirituels, de sevrés spirituels en notre propre Église, qui crient désespérément et en vain leur faim et soif d'authentique spirituel, et que tant d'hommes et de femmes d'Église et d'évêques n'ont pas le temps de recevoir, d'écouter, d'enseigner, de conforter et d'encourager, accaparés qu'ils sont par leurs activités temporelles, consacrées au service des tables, tables de réunion, de concertation, de calcul et d'investissement, tables rondes ou carrées, de consultation, etc. Et les orphelins spirituels continuent à se multiplier en Église. 15e caractéristique, l'évêque qui ignore tout du véritable prophétisme. C'est le type d'évêque qui n'a pas su, après son entrée en fonction, repérer, accueillir, écouter, encourager et soutenir les vrais prophètes spirituels que le Seigneur a voulu susciter en grand nombre en son Église diocésaine et dans tous les secteurs de ce diocèse. Non seulement l'évêque ne s'est pas donné la peine de les repérer, il ne l'a pas cru nécessaire, indispensable, mais encore, allant même en sens opposé, il s'est mis à les craindre, à s'en méfier, voire même à les ignorer, les repousser, les combattre ou les ridiculiser. Saint Paul aux Éphésiens 2:20-21, qui loue l'importance du couple apôtre-prophète. Et on sait que jadis, lors des premiers conciles de l'Église, les évêques s'y rendaient avec leurs prophètes du Seigneur. Aujourd'hui, ils y vont uniquement avec leurs experts en sciences religieuses, ecclésiastiques et sociologiques. Je n'ai rien contre cela, mais un peu plus de communication par en haut avec le bureau-chef ne leur nuirait pas, il me semble, surtout en Église. On imagine alors aisément quel sera ou serait le désarroi d'un tel type d'évêque ces toutes prochaines années, ou en cette heure des tout derniers temps, selon la célèbre prophétie de Joël 3:1-5, le Seigneur répandra son esprit sur toute chair, vos fils et vos filles seront des prophètes. 16e caractéristique, l'évêque plus ou moins fervent spirituellement. Personne n'ose ou n'osera en douter, du moins je l'espère. Les nouveaux leaders spirituels en cette Église, qui sera renouvelée spirituellement de fond en comble au cours de la présente décennie, seront beaucoup plus des portes-étendards du Christ, des portes-amour du Père, des portes-flammes de l'Esprit, des portes-paroles du Seigneur, bref, d'authentiques et constants porte-Dieu, plutôt que des portes-documents, des portefeuilles ou des portes-fardeaux, c'est trop évident. Cela va donc exiger, sans l'ombre d'un doute, des évêques qui sont vraiment de grands intimes du Seigneur, des adorateurs et des familiers de Dieu, en tête du peloton spirituel de leur propre Église, des évêques exemplaires, entraînants et convaincants, par leur vie, leur pensée, leur agir et réagir, tout imprégné du Seigneur de A à Z. Des chefs spirituels qui non seulement expliquent, citent ou appliquent aisément la parole de Dieu, l'Écriture, mais s'y impliquent personnellement à fond. Des évêques en qui on reconnaîtra aisément la voix du bon pasteur qu'est Jésus, qui s'est d'ailleurs laissé ouvrir le cœur pour nous y loger tous et nous faire vraiment renaître et revivre. Par ailleurs, le type d'évêque actuel, qui est devenu en public de plus en plus muet spirituellement, que ce soit par option personnelle ou à cause d'une conception erronée de la collégialité épiscopale, devra lui aussi retrouver ou chercher sa nouvelle voie VOIE et VOIX. 17e caractéristique. L'évêque qui n'est vraiment pas communautaire chrétien. Un des quatre éléments essentiels du style 2 nouveau qui s'en vient en Église, c'est le vrai de vrai communautaire chrétien que, dans mes enseignements majeurs sur le sujet, je définis ou décris comme suit. Celui qui a la volonté, l'aptitude et l'habitude de partager avec tous ses frères et sœurs, de mieux en mieux, au fur et à mesure, aller et retour, le meilleur de ce qu'il est et devient spirituellement dans la vie, grâce à l'amour du Seigneur, à l'œuvre en lui, autour de lui et à travers lui. L'Église, on le sait, est très riche en communautaire, mais bien pauvre, est très riche en communauté plutôt, et très pauvre en communautaire. Les fidèles, les pasteurs et bergers doivent retrouver au plus tôt le sens, le vécu, le goût et les bienfaits du vrai de vrai communautaire chrétien. Or, cela n'a rien à voir avec les talents tout naturels de relations humaines, de contacts faciles, talents d'animateur de réunion, d'attitude amicale ou cordiale. On peut avoir tout cela et n'être pas communautaire pour 2 centimes. Le vrai communautaire est celui qui, comme Jésus, peut dire « Je vous appelle mes amis parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Jean 15, 15. C'est-à-dire, je vous ai partagé le plus intime spirituel de mon être. Bien des évêques ont cru, et bien à tort, bien faire en se tenant à l'écart de véritables communautés de partage spirituel chrétien de leur vécu, ou encore ont cru que leur solitude était une rançon normale à verser pour toute personne en autorité. N'étant pas encore devenus communautaires vrais aller-retour, aptes donc à partager leur vécu bien vécu dans la foi au fur et à mesure, ces évêques ne sont donc pas dans la course au leadership spirituel requis en une Église où se vivra bientôt le nouveau renouveau spirituel continu. C'est plus qu'évident. 19e et avant-dernière caractéristique, l'évêque peut ou pas mettre de sa langue sur le plan de la charité. Il y a un an, à l'été 1991, l'Esprit du Seigneur m'a vivement poussé à proclamer deux séries de cassettes, l'une sur le « Aimons-nous les uns les autres en Église » et l'autre sur le « Mangeons-nous les uns les autres en Église ». En fait, tout l'enseignement sous sa mouvance, à mon grand étonnement personnel, du moins de prime abord, m'a été donné d'abord sur le « Mangeons-nous » en partant de la célèbre semonce de saint Paul aux Galates, 5:15, lorsqu'il leur dit, et je cite, « Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres. » Dans tout son enseignement, qui est loin de nous laisser indifférents, l'Esprit du Seigneur affirme très fort, entre autres, primo, que c'est le scandale des scandales en Église à l'heure actuelle, chez nous comme ailleurs. Secondo, que dans cette bien triste Olympiade, le clergé, l'épiscopat et les communautés religieuses méritent la médaille d'or. Tertio, qu'on aura beau enseigner et désirer vivre le « aimons-nous », rien de cela ne se produira pour vrai et de bon tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas cessé la diffamation, la délation, la zizanie, les mères debout, et alibi aliorum plurimorum defectorum. Parmi les 8 syndromes qui menacent la vie des fidèles en Église, 4 d'entre eux sont hélas assez fréquents chez les personnes en autorité. Le syndrome de la domination, le syndrome du Sanhédrin, le syndrome de l'Inquisition, le syndrome du sablage continu. Peu importe les bonnes ou soi-disant vertueuses intentions de ces autorités, beaucoup de clercs et de laïcs en sont souvent victimes, déçus, blessés ou scandalisés. On peut bien imaginer alors que ce type d'évêque, qu'on peut aisément identifier parfois à l'un, deux, 3 et même 4 de ces syndromes, domination, sanhédrin, inquisition et sablage continu, et qui n'en connaît pas de ce type d'évêque, sont mieux de commencer à léguer leur crosse et croix pectorale et à offrir leur siège épiscopal. Sous la loi de l'amour, les successeurs d'apôtres opérant plutôt sous le nom amour fraternel et la charité vraie, ne seront plus les élus ni de Dieu ni de son peuple. Je me rends compte que j'ai par erreur interverti 2 caractéristiques et je reviens à la 18e que je n'ai pas donnée, l'évêque égalitaire à tout prix. Celui pour qui l'idée de la primauté de Pierre et de ses successeurs est une pure notion théorique ou juridique, qui dans son esprit et son cœur n'est pas ou n'est plus une réalité vivante, fondée et indispensable. Pour lui, le pape c'est un évêque comme les autres. Un point, c'est tout. Un évêque qui en vient donc peu à peu à subir ce leadership pontifical uniquement parce que les lois canoniques et les circonstances l'imposent, et le goût latent des promotions l'anime. Quelle erreur et quel vide pour lui et les siens. Jésus a voulu la primauté de Pierre, et en Église qui se renouvelle, cette primauté sera revalorisée comme jamais auparavant. L'Église étant enfin restituée comme elle se doit entre les mains de son chef fondateur. L'évêque qui ne voudra ou ne pourra pas reconnaître une primauté de leadership effective et affective au-dessus de lui en Église, n'aura vraiment plus sa place dans cet univers ecclésial nouveau. Et Passons à la 20e et dernière caractéristique. L'évêque surtout complaisant, voulant plaire à tout et à tous. Comme on le sait, Jésus a admis lui-même être à cause de ses options un signe de contradiction et une cause de dissension sur la terre. « Je ne suis pas venu apporter la paix, dit-il, mais bien le glaive. » Matthieu 10, 34, 35 et Luc 12, 51, 53. Il n'est donc pas surprenant que les premiers apôtres et les vrais apôtres de tous les temps depuis lors aient eu à payer souvent chèrement de leur réputation ou de leur vie leur constante fidélité à proclamer sans dilution ni compromission les options, toutes les options de leur maître Jésus. Ce qui, par ailleurs, est devenu surprenant de nos jours, c'est le grand nombre de successeurs des apôtres qui ne suscitent plus de réaction, de remise en cause, d'interpellation, tout simplement parce que le peuple ne sent plus en eux la vraie flamme apostolique. Leur vin est à ce point additionné, coupé d'eau, par souci de plaire ici ou de ne pas déplaire là-bas, que leurs prédications et leurs déclarations n'ont vraiment plus de force de frappe, ni de vogue ou d'écho. Leur fausse diplomatie ne mène nulle part. On ne connaît plus leurs vraies options de fond. Ils tentent en vain de ménager le chou et la chèvre. Leur carte d'identité spirituelle se décolore de plus en plus. À l'approche de la grande heure de vérité qui s'en vient, ou, comme Jésus l'a recommandé, dites oui ou dites non, tout le reste vient du malin, Matthieu 5, 37, ce type d'évêque complaisant à tous et à tout, trop souvent et depuis si longtemps, ne saura trop que faire et dire, habitué comme il l'a été à louvoyer et à zigzaguer. J'aurais le goût de dire en souriant tout doucement, ces experts du ménagement vont sûrement être promus à un déménagement. Et voilà la deuxième dizaine terminée, mais avant de conclure ce chapitre, je voudrais tirer quelques réflexions ou faire quelques réflexions. Éminence, cher Monseigneur et cher Père, je vous le dis et redis et re-redis, cette interpellation n'est ni un jugement ni une condamnation. Cela ne relève que de Dieu et non de Matthieu. Matthieu, lui, ne veut et ne peut que vous alerter. Espérons sans vous alarmer. Secouer si nécessaire, sans écraser. Vous précisez que le compte à rebours est commencé, sans vous prendre pour autant à rebours ou de court. Pourquoi le Seigneur passe-t-il par le tout petit tuyau d'orgue que je suis, alors qu'en Église il aurait eu tant d'autres et de meilleurs choix que moi? Je l'ignore encore. Je tente une explication. C'est sans doute parce qu'il sait que je suis un vétéran, pour ne pas dire en blaguant un blessé de guerre, du style 1 au cube et à toute vapeur. Par mes 30 premières années de ministère, je sais vraiment ce que pensent, font et refont, vivent tous les évêques, prêtres, religieux, religieuses, du style 1 actuel, qu'on dit post-conciliaire. Ces deux dizaines étant énoncées, j'aimerais maintenant partager deux mises au point et le plus fraternellement et prophétiquement possible. Monseigneur, si vous vous êtes bel et bien reconnu dans la première ou la deuxième caractéristique, celle de l'évêque satisfait du style 1 ou résigné face au style 1 tout en se rendant compte qu'il aurait dû travailler à le changer, prenez déjà pour acquis que vous êtes de cette race épiscopale en voie d'extinction. Vous l'êtes également si vous vous êtes retrouvé dans ne serait-ce que 3 ou 4 des 18 autres caractéristiques énumérées. À moins, bien entendu, et c'est toujours sous-entendu, que sa grâce et sa miséricorde toute-puissante ne vous aient frappé au cœur séance tenante, et que vous répondiez au signe de Jonas, celui de la conversion totale, rapide et sincère, dans les meilleurs délais, et un peu comme nous en donne lui-même l'exemple du roi de Ninive, qui, dès l'interpellation de Jonas, sonne l'alerte, se convertit personnellement d'abord, exhorte son peuple et espère bien que Dieu va se raviser. Ces 20 caractéristiques correspondent en somme aux 20 lacunes qui ont le plus déçu, blessé et scandalisé les fidèles au cours des ans. Le peuple de Dieu, on le sait, n'a pas été dupe, mais seulement patient et muet. D'ailleurs, dans le style 1 actuel, avait-il un autre choix? Dans le style 2, la troisième voie, V-O-I-X et V-O-I-E d'expression en Église, trouve ou retrouvera ses cordes vocales et s'exprimera de plus en plus en toute vérité, charité, liberté spirituelle d'enfant de Dieu. J'ajoute ici, Éminence, Monseigneur, cher Père, que l'Esprit du Seigneur, longuement prié et écouté, m'a mis dans le cœur de dire à tous ces prêtres, évêques, religieux, religieuses, vraiment enlisés volontairement ou non dans le style 1 qui se meurt, qu'ils n'ont pas à demeurer en fonction jusqu'à ce que mort s'ensuive ou que 75 ans arrivent. Le grand conseil de Jésus, et je cite Marc 8, 36, « Quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie ?» trouve tout autant son application en ce qui concerne nos missions et nos fonctions pastorales et épiscopales. Face aux événements exceptionnels qui s'en viennent, quelques années de retraite anticipées, prématurées même, avec tout le calme, le recul, le temps accru de prière et de réflexion que cela favorise, n'est sans doute pas une idée à négliger. Surtout pour celui qui s'est déjà vraiment dévoué durant 10 ou 15 ans à faire tant d'efforts avec relativement beaucoup moins de résultats et voudrait consacrer davantage de temps à penser à son propre salut, que d'ailleurs personne ne peut prendre à la légère ou prendre pour acquis, quel que soit son titre en Église. Personnellement, je vous l'avoue, je n'ai aucune inquiétude vis-à-vis des évêques qui vont découvrir et admettre bien humblement qu'ils sont en fait de ce type d'évêques en voie d'extinction prochaine. Surtout, si comme on le lit souvent dans les textes de la Bible, ils le regrettent et font pénitence. Le Seigneur saura le leur pardonner, lui qui est toute miséricorde. D'autant plus que dans bien des cas, plusieurs d'entre eux sont eux-mêmes des victimes de l'institution et leurs intentions étaient malgré tout bonnes et sincères. Je suis par ailleurs beaucoup plus inquiet des évêques qui, entendant cette interpellation fraternelle, pour diverses raisons qu'on peut imaginer, sans les énumérer ou les juger, se donneront sur le champ une absolution collective et mutuelle, croyant que tout, rien de tout cela ne les concerne, et continueront à vive allure leur course folle et aveugle vers le grave accident de parcours qui les attend d'ici peu. Prions fort pour eux et leurs victimes passées, actuelles et éventuelles. Aimons-les et comprenons qu'ils ne comprennent pas, du moins pas encore. L'heure n'est vraiment plus à déchirer ses vêtements, à rouspéter et à s'obstiner, mais à ouvrir son cœur et son esprit, tout grand, à l'esprit de vérité, qui clairement, doucement, mais sûrement, s'en vient nous aider tous. Qui que nous soyons, et dès que nous, où que nous soyons, d'abord à nous bien rendre compte, pour ensuite mieux lui rendre compte de nos vies, bien entendu, et de celles des autres qui, à certains égards, nous ont été confiées. Et passons maintenant, si vous le voulez bien, au chapitre 5, intitulé « Un pardon inconditionnel et irréversible », avec quelques réflexions respectueuses et utiles pour la gloire de Dieu et le bien des âmes. Éminence, Monseigneur, cher Père, le chapitre 5 que nous abordons s'adresse surtout aux évêques du Québec, et plus particulièrement à quelques-uns seulement d'entre eux. Mais après un long temps de prière et de discernement spirituel, il m'a semblé évident, d'intérêt général même pour notre Église, du Québec et d'ailleurs, qu'il soit inclus dans cette présente interpellation et à ce moment-ci précis. Dans une lettre en date du 23 mai 1988, envoyée à tous les évêques du Québec, je les mettais au courant, en garde même, ouvertement et fraternellement, contre une campagne de diffamation grave et injuste, déjà en cours depuis 1987, à base d'accusations non fondées et non vérifiées, un genre de mer debout dans laquelle, hélas, certains de leurs collègues semblaient s'impliquer. C'est maintenant déjà bien connu, quelques évêques du Québec y ont contribué sciemment en m'accusant ouvertement, soit d'être fondateur d'une nouvelle église parallèle, ou d'une secte, soit d'être schismatique, hérétique même, soit d'avoir ordonné des femmes, d'être en rupture de banc avec l'Église officielle, ou d'être tombé dans l'illuminisme ou des déviations spirituelles incroyables. C'est inimaginable, renversant et faux de A à Z. Quelques autres évêques y ont contribué, eux, plus ou moins consciemment, en donnant crédit de prime abord à tout cela, sans même se donner, eux non plus, la peine de vérifier à la source ou auprès de personnes qui fréquentent assidûment les fondations ou Charles Mathieu. Leurs discours ont été moins élaborés, plus courts, mais non moins empoisonnés ou empoisonnants. Ils mettaient à la moindre occasion leur entourage, leur clergé ou leurs fidèles sévèrement en garde contre tous mes enseignements ou initiatives en disant, par exemple, le genre de petite insinuation vénéneuse, « Méfiez-vous, faites bien attention, vous courez de grands risques, soyez prudents, il est dangereux, paraît-il. » Enfin, d'autres, à quelques exceptions heureuses près, y ont contribué inconsciemment. Peu intéressés à trop s'en mêler, pas intéressés à vérifier eux non plus, ils se sont contentés, par leurs exclamations verbales ou leurs réactions non verbales, haussement d'épaules, branlement de tête, sourire ou silence sceptique, de laisser entendre en fait, rien de précis et en même temps, toutes les histoires invraisemblables possibles. En partant de ces dires et de ces attitudes d'évêques, beaucoup de prêtres, de religieux et de religieuses, aux imaginations et diffamations faciles et fertiles, ont lancé histoire sur histoire des plus farfelues, à bracadabrande, comme par exemple... que j'étais en très grande dépression, que j'avais défroqué, que je me vengeais pour n'avoir pas été nommé évêque, que j'étais parti avec la caisse de la conférence épiscopale, etc. Il n'y a pas de limite, on le sait, à la fiction diffamatoire. À mon humble avis, tous ces trois groupes d'évêques de chez nous ont contribué à la mer debout, de manière bien différente, certes, mais de façon, si on évalue en définitive les conséquences, aussi graves et dommageables, surtout venant de la part de chefs spirituels en Église. Dans un vin nouveau du Seigneur, proclamé récemment et intitulé « Les premiers 7x7 d'un véritable pardon chrétien », le Seigneur rappelle aux chrétiens et chrétiennes que nous sommes que dans toute tentative de réconciliation dans l'Esprit du Seigneur, il faut bien distinguer entre trois étapes successives et complémentaires. D'abord, le pardon à accorder sans délai. Ensuite, la réflexion sur la situation qu'on doit s'imposer. Et enfin, l'option d'avenir à prendre en tout dernier lieu. J'ai dans le cœur, mon Seigneur, de suivre à la lettre ce schéma rappelé par le Seigneur. 1. Sur le plan du pardon, je veux dire publiquement à ces quelques évêques, « Mes seigneurs, c'est déjà fait et accordé et depuis la toute première minute. » Je dirais, comme je l'ai expliqué plus tôt, « Mon pardon à votre égard était même anticipé depuis plusieurs années. Il vous a été donné de tout cœur. » Il est profondément sincère, total, sans condition, réitéré tous les jours sans exception et accordé à tous sans aucune exception. Ce pardon, je vous l'assure, il est solide, irréversible et croyez-moi bien, vous êtes traité malgré cela aux petits oignons de la plus grande charité fraternelle et communautaire possible, de ma et notre part. Demandez-le à ceux et celles qui me et nous fréquentent, jamais, jamais, au grand jamais, un mot de négatif à votre sujet. Passons maintenant à l'étape suivante, où l'Esprit du Seigneur nous demande de bien réfléchir sur la situation, après avoir pardonné, et d'avoir, en tant que chrétien, le courage nécessaire d'appeler les choses par leur nom, de dénoncer ce qui est vraiment mal et de tirer les bonnes leçons possibles et d'exhorter au besoin ses frères et sœurs afin d'éviter la récidive. Je m'exécute donc et je vous fais part, courageusement, franchement, mais respectueusement et chrétiennement, de ce que je pense de votre attitude. Et je vous ferai ce partage fraternel chrétien pour la toute première fois depuis 5 ans et en même temps pour la toute dernière fois. Je le fais également au nom de cette multitude de prêtres, de religieux, de religieuses, de laïcs et même d'évêques, joliment éberlués, scandalisé et même choqué par ce qui s'est passé. Permettez-moi d'abord quelques précisions. À ce moment-ci, avant de passer à mes réflexions légitimes sur la situation, je veux vous rappeler 2 séries de précisions importantes et utiles, je crois, pour éclairer votre propre discernement en la matière. La première série de précisions. J'ai pu rencontrer l'évêque qui a été, à toute fin pratique, le colonel en chef de cette mer debout pour la première fois, 8 mois après le lancement de celle-ci. Et il m'a avoué lui-même 2 choses. D'abord, ce qu'il avait entendu dire, et ensuite, le fait qu'il avait immédiatement rediffusé le tout sans avoir pris la peine de vérifier quoi que ce soit, directement aux 2 cardinaux archevêques d'alors, de Québec et de Montréal. Et, tenez-vous bien, ces 2 éminents prélats à Montréal et à Québec, sans vérifier à la source eux non plus, ont commis la grave imprudence de commencer à propager le tout, activement, auprès de leurs évêques auxiliaires, de leurs collaborateurs diocésains, de membres du clergé, de communautés religieuses, etc., etc., du laïcat engagé. Les auditeurs témoins de leurs propos, en direct ou en relais, sont très, très nombreux. Et c'est comme ça, et vous avez bien entendu, que s'est déclenchée la grande marée brune et noire. Surtout quand on pense que ces deux grands diocèses regroupent à eux seuls la moitié de la population dite catholique du Québec. C'est tristement inouï, mais bel et bien vrai. Énorme comme faute, mais typiquement un produit de nos soi-disant milieux d'Église. En boutade, j'aurais le goût de dire que, sans scrupule ou par imprudence, on vous allume de toutes pièces un feu pour pouvoir mieux se dire ensuite qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et comme le tam-tam ecclésiastique est souvent plus rapide que le son, cette mer debout a connu une marée montante ultra rapide dès le point de départ. Et revenons-en à l'évêque colonel en chef. Quand, à mon tour, j'ai pu lui donner ma version des événements, 8 mois plus tard, après m'avoir religieusement écouté, il s'est exclamé, et je le cite en partant des notes de notre entrevue, consigné d'ailleurs dans notre correspondance subséquente, c'est bien loin d'être ce que j'avais entendu dire. C'est une toute autre histoire. Il n'y a donc pas matière à tant d'éclat. Disons donc que le dossier est fermé, classé. Tournons la page. Arrachons-la. Sic. Et je termine cette première série de précisions, de nature à vous aider dans votre discernement, en vous disant, cher Monseigneur, Éminence, que 5 ans après, donc à ce jour, vos 3 collègues, ces 3 premiers propagateurs de toutes ces accusations fausses, n'ont pas encore eu le courage chrétien élémentaire de réparer adéquatement le tout. Prions pour eux. Mais gardons patience. Tôt ou tard, la grâce de Dieu aidant, ils auront à le faire, veut pas, ici-bas ou là-haut. Et le simple fait d'arrêter de dire encore du mal de quelqu'un, et j'ose espérer qu'ils en sont là, ne dispense pas pour autant de réparer le tort déjà fait avant. Il ne faut pas un doctorat en théologie pour comprendre ça. La deuxième série de précisions, non moins importante, malgré de nombreuses tentatives de certains, enquête sur enquête, analyse sur analyse des enseignements et des comportements de Charles Mathieu et des fondations, 5 ans après le lancement de cette mer debout, encore aucune, mais aucune de ces allégations de schisme, d'hérésie, d'église parallèle, d'ordination, d'irrégularité prétendue, aucune de ces allégations ou insinuations épiscopales ne s'est avérée fondée, vraie, démontrée, confirmée ou retenue par l'autorité d'Église, mais s'avère uniquement de la spéculation et de la diffamation. Et on me fait signe que le temps est venu de tourner la cassette. Nous nous reposons un moment.